Chapitre 26. Où le livre d'or. Les beaux jours revenaient. Presque chaque matin, Zizo se plaçait derrière la paroi de verre de la pyramide, face au verger des Tuileries, et comptait les feuilles des arbres qui, les unes après les autres, naissaient sur les branches. Plus jamais il n'avait ressenti les coups de tambour dans son cerveau, depuis ce matin d'hiver où la neige avait recouvert la pyramide. Ce mal brutal, comme un cauchemar qui aurait voulu s'échapper de son crâne, avait disparu aussi soudainement qu'il était apparu. Zizo, d'ailleurs, n'y pensait plus. Quand il regardait ainsi le verger, Alix souvent l'accompagnait. « Lorsque les rosiers refleuriront, promettait Zizo, je te tresserai une nouvelle couronne. » Bientôt, les feuilles des arbres furent trop nombreuses. Évaluer leur nombre aurait été une tâche aussi impossible que de compter les étoiles dans le ciel. Le matin, une brume épaisse recouvrait les fleurs et les troncs du verger. Mais, dès la fin de la matinée et jusqu'à la tombée de la nuit, un soleil puissant redoublait d'efforts pour faire oublier son frère de fer et réveiller la nature engourdie. Près de 3 mois s'étaient écoulés depuis la chute du soleil de fer. Les enfants du château avaient supporté l'hiver, et curieusement, l'absence d'électricité, de chauffage, de vidéo, de Marie-Lune, n'avait pas réellement changé leur quotidien. Ils s'adaptaient. Quelle différence, pour se chauffer, entre les radiateurs d'avant et les cheminées aujourd'hui, si ce n'est que les bûches enflammées étaient plus jolies à regarder. Quelle différence, pour s'éclairer, entre les ampoules électriques d'hier et les lampes à suif ou à huile aujourd'hui, si ce n'est qu'on pouvait se promener avec sa torche. Quelle différence entre les cours de Marie-Lune sur écran et ceux appris dans les livres ou les cahiers, si ce n'est qu'ils étaient désormais dirigés par les délégués. La plupart des enfants du château continuaient de suivre sagement les cours dans les 3 pavillons, selon un programme établi à l'avance dans les manuels. Ils corrigeaient mutuellement leurs devoirs et acceptaient les sanctions des délégués si les leçons n'étaient pas correctement apprises. La plupart. Pas Sabi. Sabi refusait de comprendre pourquoi il était impératif de continuer de passer ses journées en classe à étudier des artistes morts depuis des siècles ou à reproduire des œuvres d'art démodées alors qu'il y avait tellement mieux à faire pour occuper ses journées. Ou simplement, de passer à ne rien faire, à paresser au soleil, à discuter, à rêver, bref, à faire ce que l'on voulait. Sabi prenait un malin plaisir à arriver en retard en classe, à ne pas écouter dès que l'enseignement la barbait, à utiliser les pinceaux et la peinture distribués par Isalis, non pas pour copier des chefs-d'œuvre anciens, mais pour se peindre les ongles des mains ou des pieds, à éclater de rire en plein cours, à sortir pour aller aux toilettes et ne revenir qu'une heure après, avec une nouvelle coiffure et de nouveaux habits. Les disputes avec Isalis, la déléguée des singes, devenaient quotidiennes. Et Sabi aurait sans doute été contrainte d'obéir si elle avait été seule à se rebeller. Sauf qu'au grand désespoir des délégués, autour de Sabi se regroupaient 20 de filles. Ces élèves turbulentes appartenaient principalement au pavillon des singes. Mais quelques-unes perturbaient aussi les cours des savants et refusaient d'étudier les matières les plus ennuyeuses, les mathématiques ou la physique, pour se concentrer sur les plus amusantes, l'anatomie, les sciences de la nature ou la psychologie. Même dans le pavillon des soldats, certaines filles protestaient pendant les exercices les plus fatigants, les parcours du combattant où il fallait ramper dans la poussière, les séries interminables d'échauffement et d'étirement, les chorégraphies où chaque enfant devait reproduire exactement les mêmes mouvements. Elles bâillaient, s'allongeaient quand il fallait se lever, riaient quand il fallait se taire. L'autorité de Jeanne d'Arc ne pouvait rien contre ces réfractaires, heureusement minoritaires. Cette bande d'une 20aine de filles, dont le nombre augmentait petit à petit, avait pour lieu de ralliement la cour intérieure sous la pyramide, où elles restaient des heures à discuter en suçant des lollipops. Elles avaient d'ailleurs baptisé leur bande de filles les Lolly Girls. Pour mieux se reconnaître, elles portaient leurs longs cheveux décoiffés, sans bandeau ni barrette pour les retenir, et pour tout habit, une simple tunique blanche, ample et sans manches, sur laquelle elles s'amusaient à dessiner leurs motifs préférés. Des fleurs, des étoiles, des cœurs pour les singes, des visages, des mains ou des yeux pour les soldats, des symboles géométriques pour les savantes, ou tout autre dessin leur passant par la tête. Elles en changeaient chaque jour. Chaque semaine, plusieurs nouvelles filles rejoignaient le groupe des Lolly Girls, et elles acceptaient même certains garçons, notamment ceux qui aimaient rire et jouer de la guitare comme Matifou, Cladrix ou Abou. Les délégués étaient bien obligés de tolérer les Lolly Girls, mais toutes savaient que la situation ne pourrait pas durer et que le conseil devrait voter. Alix était particulièrement ennuyée. Sa meilleure amie était à la tête de la bande de mutine et, au fond d'elle-même, elle se disait que si elle n'avait pas été reine, elle aurait rejoint sans hésiter le groupe des filles libres et rebelles. Augenor, lui non plus, ne semblait pas pressé d'intervenir. Depuis la veillée du sanctuaire et la dernière vidéo de Marie-Lune, il demeurait plongé dans une profonde mélancolie. Il restait souvent des heures dans la même pièce, ne demandant à aucun enfant de porter son fauteuil roulant pour qu'il puisse descendre un escalier. Ni Zizo, ni Alix, ni Sabi ne l'avaient croisé à nouveau dans une pièce souterraine à la recherche de la tombe de Marie-Lune, mais tous se doutaient qu'il n'avait pas renoncé et qu'il serait incapable de faire son deuil de leur mère à tous avant d'avoir trouvé où elle reposait. Enfin, les derniers membres du conseil, les trois délégués des pavillons, bien qu'excédés par la troupe bruyante des Lolly Girls, avaient pour l'instant une autre priorité. Le tournoi de l'étoile. L'immense majorité des enfants ne pensait qu'à lui. Chaque pavillon avait entraîné en secret ses trois champions pendant les longues semaines d'hiver. Le printemps commencerait véritablement ce jour-là, le jour de l'équinoxe, quand tous les enfants du château se retrouveraient à encourager leur camp, dans un lieu tenu secret par les organisateurs du tournoi. Ce matin-là, quand Zizo se réveilla, le château était vide. Ce fut Osman qui vint le secouer. Le soleil venait à peine de se lever.
« Florentine et Soutine nous attendent !» fit Osman.
C'était donc le grand jour, l'équinoxe de printemps. Seules Florentine, Soutine et Osman, les arbitres du tournoi de l'étoile, étaient là. Même si Zizo avait passé beaucoup de temps avec Osman, son meilleur ami au pavillon des savants, même s'ils avaient discuté pendant des heures des cartes de Paris et du reste du monde, jamais ils n'avaient évoqué ensemble le tournoi. Les arbitres devaient composer l'épreuve dans le plus grand des secrets. Poser la moindre question aurait été considérée comme une insupportable tentative de tricherie. Osman marcha devant Zizo pour le conduire dans la cour intérieure, sans qu'il croise le moindre autre enfant. Osman était un garçon de taille moyenne, mais avec un tronc court et de grandes jambes, qui paraissaient d'autant plus disproportionnés qu'il portait toujours des pantalons trop courts. Lorsqu'ils parvinrent sous la pyramide, les neuf autres champions l'attendaient. Zizo leur adressa un signe amical, mais aucun ne lui répondit. Était-il trop concentré avant le début du concours ? Pourtant, avant que Zizo n'arrive, tous les candidats du tournoi semblaient plaisanter entre eux. Ils s'étaient arrêtés au fur et à mesure qu'il approchait. Le regard bleu de Novak, sans plus aucune trace d'hématome, le traversa comme s'il n'était qu'un fantôme. Depuis que les enfants soldats avaient appris qu'il était désigné champion de la reine, leur provocation s'était calmée. Zizo n'entendait presque plus de cris de rat ou de menaces sur son passage. Peut-être les enfants soldats s'étaient-ils simplement habitués à sa présence, comme deux chats sur le même territoire finissent par s'accepter. Novak glissa quelques mots à l'oreille d'Elios, toujours coiffé de sa casquette, lunettes noires sur le nez. Les deux champions pouffèrent de rire en regardant Zizo avant de lui tourner le dos. « Ils se sont peut-être habitués à moi, » pensa Zizo, mais jamais il n'avait ressenti autant de rivalité. Il essaya de ne pas y prêter attention et s'adressa aux trois arbitres.
« Il n'y a plus d'autres enfants dans le château ?»
Florentine et Soutine le dévisagèrent d'un air méfiant, puis Osman lui répondit
« Ils sont déjà tous dans les tribunes, avec les drapeaux et les banderoles. Ils vous attendent. Cela fait même des semaines, des mois, un an qu'ils vous attendent. »
Zizo n'ajouta rien. Il trouvait pourtant étonnamment dangereux de laisser ainsi le château abandonné. Si les enfants du tipi avaient voulu l'attaquer, c'était à ce moment-là qu'ils auraient dû le faire. Comme s'il avait lu dans ses pensées, Osman précisa « Nous sortirons par le métro, en te bandant les yeux, Zizo. Il n'existe qu'une façon d'entrer dans le château par les souterrains. Toutes les autres issues sont barricadées. Surveillées et barricadées. Zizo eut l'impression de marcher pendant des kilomètres avant qu'Osman lui ôte le bandeau qui lui masqua les yeux. Il s'aperçut que les autres participants du tournoi écarquillaient aussi les yeux et avaient donc également progressé en aveugle. Tous portaient un dossard sur lequel un numéro avait été inscrit. Bleu pour les singes, rouge pour les soldats, or pour les savants. Celui de Zizo était blanc et il avait hérité du numéro 10. Il se trouvait dans une très grande station. Zizo avait appris que ce qu'on appelait le métro était un ancien mode de transport souterrain et qu'il en restait un incroyable dédale de couloirs et de tunnels sous les rues de Paris.
« Cette année, déclara Soutim, l'arbitre du pavillon des singes, le tournoi se déroulera sur le parvis de la très grande bibliothèque. »
Sa voix résonnait en écho dans la vaste pièce souterraine et vide.
« Vous ne disposerez que d'un indice, » continua Haussmann. « Le livre d'or où le soleil se lève. »
Il n'ajouta rien. Florentine, l'arbitre du pavillon des soldats, termina d'énoncer les brèves recommandations.
« Je vous rappelle que vous devrez faire preuve de force et de ruse, de vitesse et d'adresse, mais également de courage. Ces 5 qualités seront récompensées par 5 médailles. Celui ou celle qui remportera le plus de médailles remportera le tournoi. Que le meilleur gagne !»
Les 3 arbitres s'éloignèrent, plantant les 10 candidats interloqués dans la station déserte. « Et ensuite ?» se demanda Zizo. « Que se passe-t-il ? Par quelle épreuve commence-t-on ? » Et cet indice, le livre d'or où le soleil se lève, qu'est-ce que cela pouvait bien signifier ? D'ailleurs, était-ce important ? Une idée s'incrustait dans la tête de Zizo. Est-ce qu'il ne valait pas mieux profiter du tournoi de l'étoile pour s'échapper ? Il pouvait sûrement se perdre dans les couloirs du M, s'éloigner, puis trouver une sortie et de là rejoindre le tipi. L'instant d'après, il repoussait déjà cette tentation stupide. Des enfants soldats, même invisibles, le surveillaient sans doute, armés de leurs bows. Et Alix l'avait désigné, il était son champion, il ne pouvait pas la trahir. Et il s'était tant entraîné pour ce tournoi. Et il se posait encore ces questions quand il s'aperçut qu'il était le seul enfant resté immobile. Tous les autres avaient déjà filé dans le dédale de couloirs comme s'ils savaient où se rendre. Avait-il disposé d'une information qu'on lui avait cachée? Zizo imaginait déjà un complot ourdi par les 3 pavillons pour l'éliminer avant même que l'épreuve commence, quand il comprit. Orlan, du pavillon des savants, Dossard 3, disparaissait dans un couloir au-dessus duquel était indiqué « Sortie 3, quai de Bercy ». Un bref coup d'œil dans le hall lui permit de repérer tous les autres chiffres. Il existait 10 sorties à la station, tout indiqué par un numéro. Le 10 se trouvait à l'opposé du hall, en direction d'un grand escalier. Foncez ! Zizo sprinta, grimpa 3 par 3 les marches de l'escalier, puis un autre, puis un troisième. Il apercevait un rayon de lumière, la sortie était proche, il n'avait pas pris trop de retard sur les autres. Il accéléra encore, pour brusquement s'arrêter. La sortie était bouchée. Des 10 grosses pierres obstruaient l'accès à la rue qu'on devinait derrière le palier, en haut du dernier escalier. Zizo s'approcha. Les pierres étaient grossièrement empilées. En un éclair, il réalisa, c'était la première épreuve, celle de la force. Il s'agissait de dégager l'entrée en déplaçant les pierres jusqu'à ce qu'une ouverture soit suffisante pour s'y glisser. Zizo pesta. Cette première épreuve était celle qui lui était la moins favorable. Il était conscient que Novak ou Helios du pavillon des soldats, ou même Pastor chez les savants, étaient bien plus forts que lui. Tant pis. Il les rattraperait ensuite. Zizo s'arma de courage et commença à soulever la première pierre, qui pesait une bonne 20aine de kilos. Il estima qu'il lui faudrait au moins en déplacer 15 avant de dégager un passage. Ne pas ralentir, surtout. Une 2e pierre, une 3e, une 4e. Les mains de Zizo le brûlaient déjà. 5 pierres supplémentaires. Zizo ne faiblissait pas, même s'il avait l'impression que ses bras s'étaient étirés de 10 cm. Encore 3 pierres. Il voyait distinctement le jour désormais et entendait des acclamations de l'autre côté. Certains enfants étaient donc déjà sortis.
accélérer encore. Il parvint à faire s'ébouler les dernières pierres sans les porter et plongea dans l'étroite ouverture. Dès qu'il sortit la tête au soleil, puis le torse, puis le corps entier, une immense clameur l'accueillit. Le cœur de Zizou cogna très fort. Il se trouvait face au fleuve et tous les enfants du château étaient assis sur les marches, en gradins, sur la rive opposée, excités comme jamais. Zizou, sans ralentir, s'apprêtait à saluer d'un geste la foule des supporters quand il s'aperçut que les enfants sur les tribunes de la Seine s'étaient regroupés sous les couleurs de leur pavillon et que seuls les enfants du pavillon des singes agitaient leur drapeau bleu avec frénésie en battant des mains et frappant des pieds. Il tourna la tête sur sa droite. Olympe, une des trois concurrentes des singes, venait de surgir de la sortie 7, exactement en même temps que lui. C'était elle que les enfants singes acclamaient. Et d'ailleurs, motivée par les encouragements, elle fila aussitôt, prenant plusieurs mètres d'avance sur lui. Zizou reprit son souffle et s'arrêta quelques secondes pour analyser la situation. La très grande bibliothèque s'élevait face à lui, de l'autre côté de la Seine. Il repérait ces quatre hautes tours de verre, fines et étroites, qui s'élevaient à chaque coin d'une large esplanade rectangulaire de bois, surélevée de plus de 30 mètres au-dessus d'une cour intérieure où poussaient des centaines de pins. Une véritable forêt en plein Paris. Pour se rendre jusqu'à l'esplanade, il n'y avait qu'un chemin, droit devant lui, un étroit pont de bois, incurvé en forme d'arc de cercle, en longue montée, un sommet arrondi, puis une longue descente. Sprinter, franchir la Seine. La seconde épreuve était logiquement celle de la vitesse. Zizou prit son élan et se mit à courir pour affronter la montée du pont. Une nouvelle fois, il entendit des acclamations, à l'instant précis où il se trouvait au-dessus de la Seine. Sa joie ne dura qu'un quart de seconde. Cette fois, il comprit vite que seuls les enfants savants, tout d'or maquillés, criaient. Et dans un souffle, il sentit Moebia, une des championnes du pavillon doré, le dépassait. Moebia était une fille presque aussi fine qu'un beau, élève brillantissime et brindille fragile. Jamais il n'aurait pu croire que cette spécialiste monomaniaque des microbes, globules et autres particules invisibles du corps humain puisse courir aussi vite. Moebia le dépassa sous les acclamations des supporters alors qu'il peinait déjà à mi-monter. Essoufflé, avec en point de mire le sommet du pont avant la longue descente qui menait à l'esplanade de la bibliothèque, il entendit de nouveaux hurrahs des enfants singes. Cette fois, c'était Minerva, la chouchoute d'Isalis, légère comme une plume, les couettes tourbillonnant comme des hélices, qui le dépassaient sans forcer. Zizou se croyait rapide. Il l'était pourtant bien moins que ses enfants entraînés depuis leur naissance. Enfin arrivé au sommet du pont, tandis que Moebia et Minerva achevaient déjà la traversée, Zizou put enfin accélérer, se laissant entraîner par la descente, tout en profitant de la vision panoramique. Sept autres champions se tenaient déjà sur l'esplanade. Il n'y avait donc que deux autres candidats derrière lui, sans doute Orlane, des savants, et Donatello, des singes. À entendre l'agitation bruyante des supporters rouges, il y avait fort à parier que Novak, Helios et Diana, les trois concurrents soldats, étaient parvenus sur l'esplanade depuis longtemps. Tout en continuant de courir, Zizou ne put repousser les pensées négatives. Il avait échoué. Il était bon dernier, ou presque, aux deux premières épreuves de force et de vitesse, et possédait un retard irrattrapable pour les trois suivantes, la ruse, l'adresse et le courage. Lui qui avait rêvé de collectionner les médailles. Le triomphe qu'il avait imaginé se transformait en fiasco ridicule. Pendant qu'il accélérait encore dans la descente du pont, quelques cris l'encouragèrent.
« Crapo, crapo !»
Sa bille s'égosillait, accompagnée d'Estive et de Lunella, deux Lolly Girls qu'elle avait dû convertir à grande promesse de Lollipops. Zizou eut également le temps d'apercevoir Alix, souriante mais muette, assise à côté d'un Eugénor qui ne lui accorda pas un seul regard. Les cris de Sabi redonnèrent un peu de courage à Zizou. Elle y mettait autant d'énergie que tous les enfants d'un pavillon réunis, et elle trouvait sûrement beaucoup plus amusant d'encourager son crapaud que le beau Novak et ses deux médailles déjà assurées autour du cou. Enfin, Zizou atteignit l'esplanade. Il repensa fugitivement à l'indice. Le livre d'or où le soleil se lève. Un livre
Quel livre ! Les quatre tours de verre de la très grande bibliothèque étaient fermées, et les sept enfants sur l'esplanade semblaient chercher depuis de longues minutes comment résoudre l'énigme. Tous tournaient en rond sur l'esplanade qui ressemblait à une grande piste d'athlétisme surélevée autour d'une forêt centrale. Novak et Helios ne semblèrent même pas remarquer qu'il était arrivé. Leur indifférence lui fit plus de mal encore peut-être que leur moquerie depuis le début de l'année. Ainsi, ils avaient eu raison depuis le début. Il n'était qu'une insignifiante petite souris. Zizo s'efforça de ne pas laisser son moral tomber encore plus bas. Le livre d'or où le soleil se lève. C'était donc l'épreuve de la ruse. Un livre était caché quelque part, sur cette esplanade. Au moins, se réjouit Zizo, puisque tous les champions étaient bloqués, tous se retrouvaient à égalité pour les trois dernières épreuves. D'ailleurs, Orlan et Donatello, les deux derniers concurrents, venaient enfin de les rejoindre. Les 10 enfants fouillaient partout sur la grande terrasse de bois, pendant que les supporters, toujours aussi bruyants, se positionnaient tout autour, en chantant, criant, hurlant. « L'épreuve de la ruse !» répétait Zizo dans sa tête. Les enfants soldats étaient arrivés sur l'esplanade bien avant lui. S'il y avait eu quelque chose à trouver ici, il l'aurait découvert. Il fallait forcément chercher ailleurs. Un éclair traversa soudain son esprit. Et s'il ne s'agissait pas de l'épreuve de la ruse, mais de celle du courage ? Un instant, Zizo leva les yeux et aperçut Alix face à lui, couronnée de roses rouges. Il la trouva incroyablement jolie, et le sourire qu'elle lui lança lui donna des ailes, plus que si tous les enfants des trois pavillons s'étaient mis d'un coup à l'encourager. Il voulait une médaille, une seule, rien que pour elle. Il était son champion, le chevalier de la reine. Il suivit son aspiration, sans même réfléchir, sans rien calculer. Il prit son élan et courut le plus vite possible, non pas en tournant autour de la piste de bois, comme tous les autres enfants, mais en la traversant. Il courut encore 10 mètres, lança un dernier regard à Alix et se jeta dans le vide. Un vide d'au moins 30 mètres. Une folie. Zizo ouvrit grand les yeux, les bras, et les referma sur le tronc du pin le plus proche, dont la cime atteignait presque la hauteur de l'esplanade. L'arbre tanga, des centaines d'épines s'enfoncèrent dans les bras de Zizo, dans ses mains et sur son visage, les branches lui écorchèrent les cuisses alors qu'il les serrait contre le mince tronc qui se balançait, mais il avait réussi. Immédiatement, il fut persuadé d'avoir deviné avant les autres. Tous les supporters s'étaient tus d'un seul coup, surpris par le saut de Zizo. Au moment de son envol, il avait même entendu quelques « Oh !» Parmi tous les enfants du château, debout autour de l'esplanade, Zizo attrapa le regard d'Osman. Il comprit qu'il venait de remporter la médaille du courage et qu'il disposait d'une courte avance sur les autres champions pour les deux dernières. L'adresse et la ruse. Zizo se laissa glisser le long du pin. Les autres enfants, sur l'esplanade, hésitaient à leur tour à se jeter dans le vide en visant les arbres. Non pas qu'ils manquent de courage. Ils avaient juste conscience que si le fameux livre d'or ne se trouvait pas dans la petite forêt, ils ne pourraient jamais remonter et perdraient toute chance de gagner. Dès qu'il atteignit le sol de la forêt, Zizo s'aperçut qu'à cause des arbres, il ne pouvait plus voir l'esplanade. Les supporters pouvaient sans doute continuer de le suivre des yeux, mais lui se retrouvait seul. Un grand cri retentit.
« T'es le meilleur petit crapaud !»
L'encouragement lui fit à nouveau chaud au cœur. Cette folle de Sabine. La forêt n'était pas vaste, à peine 200 mètres sur 50. La ruse, l'adresse, que fallait-il chercher? En tous les cas, il fallait le trouver vite. D'autres enfants allaient sûrement eux aussi sauter. Il se faufilait entre les arbres depuis à peine quelques secondes, quand il vit la carte posée par terre, entre des fougères. Immédiatement, il la reconnut. C'était l'une des cartes d'Osman, l'une de celles qu'il collectionnait dans le pavillon des savants. « L'épreuve de la ruse ?» se méfia Zizo. Fébrilement, il ramassa la carte et commença à la déplier. Il reconnut la courbe du fleuve, le pont, les bâtiments de l'est de Paris. C'était la carte du quartier. Sans doute celle qu'Osman, Florentine et Soutime avaient utilisée pour la préparation du tournoi. Qu'est-ce que cette carte faisait là? Était-ce un indice à décrypter pour trouver le livre d'or? Ou bien, tout simplement, Osman avait-il perdu sa carte lors du dernier repérage? Un indice? Ou un piège? Le livre d'or où le soleil se lève. Avant d'ouvrir complètement la carte, Zizo prit un instant pour réfléchir. Il leva les yeux vers l'esplanade pour évaluer son avance. Elle fondait à vue d'œil. Novak, suivi d'Elios et de Diana, sous les cris déchaînés de tous les élèves soldats, venait de se jeter à leur tour dans le trou et s'accrochait au sommet de trois pins qui s'agitaient comme si une tempête s'était brusquement levée. Le tangage des arbres contrastait avec la solidité des quatre tours de la bibliothèque. Ces quatre tours aux formes étranges. Ne plus hésiter. Ouvrir cette carte miraculeuse. Le livre d'or où le soleil se lève. Soudain, Zizo comprit. Il jeta la carte d'Osman, sans lui accorder la moindre attention, et sprinta droit vers le pied de la tour opposée. Le livre d'or. Les quatre tours de la très grande bibliothèque ne possédaient pas une forme anodine. Toutes avaient la forme d'un livre ouvert. C'était évident quand on y pensait. Le livre d'or se trouvait donc dans la tour est, là où le soleil se lève. Zizo y parvint en quelques foulées et comprit aussitôt qu'il avait également triomphé de l'épreuve de la ruse. 6 mètres au-dessus de lui, posé sur le rebord d'une fenêtre de la bibliothèque, un minuscule livre peint en or était posé. Les parois lisses de la tour livre étaient impossibles à escalader. Restait donc l'épreuve de l'adresse. Zizo, cette fois, n'hésita pas. Il entendait, aux cris de joie des supporters en haut de l'esplanade, toutes couleurs confondues, que presque tous ses concurrents avaient sauté dans les arbres et le rejoindraient dans quelques secondes. Le coin de forêt où il se trouvait ressemblait à une petite clairière, et en levant les yeux, il pouvait apercevoir à nouveau les supporters des trois pavillons qui s'étaient approchés au bord du vide pour suivre à distance, 30 mètres plus bas, leur champion. Tous épiaient chacun de ses gestes. Nerveusement, Zizo regarda autour de lui. Le sol était truffé de pommes de pin. Ok. Zizo devinait en quoi consistait la dernière épreuve. Osman et les autres arbitres avaient dû bien s'amuser à inventer leur tournoi. Il se pencha et ramassa autant de pommes de pin qu'il put, une petite dizaine, qu'il coinça entre son bras et son torse, puis se redressa. Les supporters bleus semblaient déchaînés, encourageant sûrement Novak ou un autre champion des soldats qui devait se rapprocher dans son dos. Zizo lança sa première pomme de pin qui rata le minuscule livre d'or d'un bon mètre. Le temps de son jet, la foule des supporters s'était tue, inquiète, craignant qu'il ne réussisse à faire basculer le trophée au premier essai. Son échec fut suivi de quelques rires et de cris de soulagement. Zizo ressentit un douloureux pincement au cœur. À part Sabi, aucun des enfants ne l'encourageait. S'il gagnait, lui, l'étranger, il déclencherait l'hostilité des élèves des trois pavillons, il le comprenait seulement maintenant. Tant pis. Il lança une deuxième pomme de pin, mais son jet se révéla beaucoup trop court. Il en lança une troisième plus fort, mais fit tomber dans son mouvement presque toutes les pommes qu'il tenait. Maigre consolation, il avait mieux ajusté et la mire se rapprochait. Des rires, plus nombreux, fusaient maintenant chaque fois qu'il ratait sa cible. Zizo entendait des pas derrière lui. Bientôt, il serait 10 enfants à bombarder le livre d'or. Il agrippa la dernière pomme de pin, la soupesa dans sa main et respira profondément. Il ferma un instant les yeux, fit apparaître le visage d'Alix, sa reine, pour laquelle il devait gagner, pour réconcilier les deux tribus d'enfants, lui l'étranger. Il avait appris pourquoi Sabi l'avait appelé Jesse l'autre fois. Jesse Owens. Cet athlète noir qui avait gagné les Jeux Olympiques chez les nazis, les blancs les plus méchants de toute l'histoire du monde. Il ouvrit les yeux. Sur l'esplanade, quelques cris, quelques rires, quelques « Ouh !» cherchèrent à le déconcentrer. Son bras se déplia. La pomme de pin suivit une courbe quasi parfaite. On aurait pu croire que Zizo parvenait à la guider de ses pensées. Novak l'avait rejoint et s'était arrêté, suivant lui aussi la course de la pomme de pin des yeux, comme si elle s'élevait au ralenti. Le fruit sec frappa le livre d'or de plein fouet. Il bascula dans le vide. les arbitres organisateurs avaient tout parfaitement calculé. Zizo s'avança. Novak, debout à ses côtés, étonnamment beau joueur, ne fit aucun geste. Il ne chercha pas à le bousculer pour lui voler sa victoire. Zizo n'eut qu'à tendre les mains. Le livre d'or vint s'y poser, agitant ses pages comme un oiseau apprivoisé. Le silence. Le silence sur l'esplanade. Comme si chacun attendait. Comme si personne ne savait comment réagir. Zizo leva les yeux, pressant le livre d'or contre sa poitrine. 30 mètres au-dessus de lui, sur l'esplanade, Alix s'était avancée. Elle lui souriait avec un regard de fierté dont il se souviendrait toute sa vie. D'un geste élégant, elle cueillit une rose de sa couronne et la jeta vers Zizo, son chevalier. Il avait remporté 3 des 5 épreuves du tournoi de l'étoile. Il était le champion. La rose rouge tomba à ses pieds. Personne encore n'osait parler.
« Bravo, petit crapaud !»
hurla alors une voix féminine. Sabi.
« Zizo, Zizo !»
se mit-elle à scander. Elle fut d'abord reprise timidement par quelques Lolly Girls.
« Zizo, Zizo !»
Dans la forêt, Zizo s'aperçut que les 9 autres champions l'applaudissaient. Une incroyable bouffée de chaleur le submergea. Sur l'esplanade, le nombre d'enfants scandant son nom augmentait.
« Zizo, Zizo !»
Puis un drapeau rouge tomba à ses pieds, puis un second bleu, puis un doré, puis une pluie de drapeaux.
« Zizo, Zizo !»
Un triomphe. Désormais, les 10 candidats se tenaient la main, unis, alors que les enfants au-dessus chantaient leurs 3 hymnes aux paroles et mélodies mélangées. Zizo avait réussi. Il avait réconcilié les tribus. Après cette victoire, les enfants du château ne pourraient plus le retenir enfermé. Mais lui ne quitterait pas le château pour se sauver. Il le quitterait pour y revenir avec ses amis du tipi. Maintenant, on l'écouterait. Il effacerait les malentendus, les peurs, les doutes. Il vivait le plus beau jour de sa vie. Mais les suivants seraient plus beaux encore. Tous les enfants, ses 2 familles, désormais réunies. Il se pencha pour ramasser la rose d'Alix. Aïe ! Son pouce se piqua à une épine, une toute petite douleur comparée aux 100 d'aiguilles de pin qu'il avait transpercées. Une toute petite douleur pour un si grand bonheur. Les drapeaux continuaient de pleuvoir, les enfants de chanter, les 3 pavillons de se congratuler. Aucun n'avait perdu cette année.
« Zizomis ?»«
Oui ?» Une voix avait résonné dans son dos.
« Tu veux bien nous suivre ?»
C'était Idriss et Django. Les 2 soldats étaient accompagnés de Jeanne d'Arc. Sans doute venaient-ils l'emmener au podium du tournoi de l'étoile pour lui remettre les médailles. Histoire que tout ne soit pas parfait, à l'inverse de tous les autres enfants, le délégué des soldats gardait le visage fermé. Lui seul ne semblait pas avoir digéré que les soldats ne remportent pas le tournoi de l'étoile cette année. Zizo suivit les 3 élèves soldats un peu plus loin dans la forêt. Ils s'arrêtèrent, pile là où Zizo avait laissé tomber la carte d'Osman. D'ailleurs, elle était toujours là, à moitié dépliée dans les fougères.
« On doit escalader les pins pour remonter ?» plaisanta Zizo. « Ou il y a une sortie secrète vers le podium ?»«
Zizomis, nous ne sommes pas là pour te remettre des médailles, » répondit froidement Jeanne d'Arc. Zizo hésita sur l'attitude à adopter. Plaisanter ? Dire à Jeanne d'Arc que les soldats ne pouvaient pas toujours gagner ? Le féliciter pour ses candidats qui avaient tout de même remporté 2 épreuves ?
Pendant que Zizo se laissait griser par ses pensées euphoriques, Jeanne d'Arc, du bout des doigts, avait ramassé la carte d'Osman et l'avait repliée.
« Zizomis, continua-t-il, tu es en état d'arrestation. Tu es accusé de tricherie aggravée. Le sol parut se dérober sous les pieds de Zizo. Il regarda Jean d'Arc sans comprendre, incapable de croire que son rêve puisse se transformer aussi brusquement en cauchemar. Jean d'Arc poursuivit d'un ton glacial, lentement, donnant l'impression qu'expliquer à Zizo de quoi il était accusé était la dernière faveur qu'on lui accordait.
Des dizaines de témoins t'ont vu consulter cette carte, Zizomis. Cette carte qui appartenait à l'un des arbitres du tournoi et que tu as volée.